À voix nue, Caroline Brouet.
Lilian Thuram, ancien joueur de foot de l'équipe de France. Aujourd'hui, fondateur d'une fondation éducation contre le racisme. Je suis le papa de deux garçons et le mari de Karine Guioc.
Deuxième épisode, défenseur professionnel. Bonjour Lilian Thuram.
Bonjour.
Vous êtes un défenseur professionnel, on va le voir aujourd'hui, puisque dans le premier épisode, vous nous avez parlé de la joie de vivre qui vous avait été donnée par votre mère Mariana. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, j'aimerais que nous parlions du football. Du football qui est le sport que vous avez choisi, à moins qu'il vous ait choisi, vous allez nous le dire. Mais vous avez été un footballeur professionnel de 1991 à 2008, au poste donc de défenseur à Monaco, puis en Italie, à Parme, à la Juventus de Turin, avant d'achever votre carrière au FC Barcelone. Vous avez d'ailleurs longtemps été le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, avec 142 sélections en équipe de France masculine et un palmarès impressionnant. Champion du monde en 98, champion d'Europe en 2000, vous avez remporté plusieurs titres nationaux, ainsi que la Coupe de l'UEFA en 1999. J'ai à peu près tout dit ou pas ? J'en oublie forcément. Ça va, comme ça?
Oui, ça va.
C'est correct.
C'est pas le plus important, en tout cas.
Bon. Voilà. C'est quoi le plus important?
Le plus important, c'est que le foot, c'est le bonheur total. Voilà, c'est ça, le foot.
Donc, c'est lui qui vous a choisi ou c'est vous qui l'avez choisi, le foot?
Disons que je n'avais pas tellement le choix, parce que j'ai grandi à Anse-Bertrand. Lorsque vous voulez faire du sport...
Et que vous n'avez pas le droit d'aller à la mer.
Ben, vous faites du foot. C'est très facile. C'est-à-dire que les grands jouaient au foot, je les observais... Et je me disais, tiens, quand je serai grand, je vais pouvoir jouer avec eux. Et donc, lorsque j'ai grandi un petit peu, les grands, ils aiment pas trop les petits. Parce qu'en fait, ils jouent toujours pour gagner. Et donc, ils veulent pas prendre les plus petits. Et donc, nous étions au bord du terrain, et parfois, il manquait un joueur pour faire le nombre. Donc, nous, les petits, on faisait le nombre. Ils disaient, ok, d'accord, Lilian, viens. Et là, j'avais été choisi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes sur le côté des petits, comme moi. Et là, on m'avait choisi, moi. Alors là, c'était juste incroyable. Les grands m'avaient choisi pour jouer. Donc, ça veut dire, quelque part, je jouais bien. Et donc, ça m'a renforcé dans l'estime de soi. D'ailleurs, on parle toujours de cette estime. Et parfois, ça, ce n'est que ça. On vous choisit en vous disant, venez jouer. Et donc, j'ai joué au foot en Guadeloupe. On jouait pieds nus devant la maison, sur le goudron. D'ailleurs, lorsque j'étais un peu plus vieux, j'ai réessayé de jouer pieds nus sur le goudron, ça marche pas. Ça fait trop mal. Mais lorsque vous êtes enfant, vous êtes inconscient. Et donc, faisais des matchs aussi entre le bourg, la chapelle, Ravinsable. Et c'était juste incroyable. Donc, le foot, c'est magique. C'était magique. Je me souviens, lorsque nous étions enfants, les plus grands allaient chercher des bouts de bois pour construire les buts. Et donc, on les voyait attacher la transversale sur le poteau, faire les lignes autour du terrain, se dire, bon, voilà, enlevez vos maillots, il y aura torse nu contre t-shirt. Et donc, c'est le foot, c'est pff, vous pouvez pas comprendre. C'est un bonheur total.
Vous êtes là pour nous dire pourquoi et comment. Mais quand même, dans la première émission, Lilian Thuram, d'ailleurs, ça a été vos premiers mots. Vous avez dit que vous aviez envie de faire plaisir à votre maman. Il se trouve que Mariana, elle aimait pas tellement le foot, elle avait pas spécialement envie que vous en fassiez. Elle n'est d'ailleurs pas souvent venue vous voir jouer. Il a même fallu attendre que vous ayez 16 ans pour qu'elle vienne vous voir jouer. Donc là, il y a une petite contradiction.
Ah, pas du tout. Lorsque vous êtes enfant, vous faites du foot en bas de la maison, devant la maison. Donc elle, il n'y a pas d'inquiétude. Donc en fait, je suis en train de jouer. Tout simplement, c'est lorsque je suis parti en France et où j'ai commencé à jouer au Portugais de Fontainebleau, par exemple, elle ne s'inquiétait pas. C'est-à-dire que moi, je joue au foot. Donc, s'il joue au foot et s'il est content, ça va. Ça devient problématique pour elle lorsque je veux quitter la maison. Et lorsque je lui dis, il faut que j'aille dans un centre de formation à Nice. Et elle dit, comment ça, dans un centre de formation à Nice? Pour faire quoi? Ben, pour jouer au foot. Comment ça pour jouer au foot? Pourquoi tu dois aller à Nice? Tu peux jouer au foot à côté de la maison. Non, mais maman, c'est plus sérieux parce qu'en fait, tu peux devenir professionnel. Non, tu vas pas jouer au foot, toi. Tu vas faire des études, mais tu vas pas jouer au foot. C'est là que ça devient problématique. Et je dis très souvent, heureusement que j'ai eu deux grands frères qui nous ont expliqué en lui disant, mais non, maman, c'est important. Si on vient le chercher, c'est qu'il est bon et peut-être qu'il peut devenir professionnel. Mais elle ne comprenait rien au foot. C'était juste mon fils, elle va rester à la maison tranquillement. Je vais l'avoir sous mes yeux. Et il va travailler à l'école pour avoir un métier. Parce que elle, joueur de foot, c'est pas un métier. Ça, on s'amuse.
Au départ, vous étiez milieu de terrain plutôt offensif hein, pour le club des Portugais de Fontainebleau, pour le Racing Club aussi de Fontainebleau. Vous étiez offensif et vous étiez milieu de terrain.
Exact.
Et puis, vous avez été nommé défenseur. Alors, comme je ne comprends rien, vous allez m'expliquer comment un attaquant de jeu devient défenseur.
Alors, tout d'abord, je pense que je suis plutôt un défenseur. Mon tempérament est plus sur la défense, en fait. Ouais. Ça veut dire qu'on ne laisse rien passer. Voilà. Je ne laisserai rien passer. Vous pouvez faire ce que vous voulez. En fait, je ne laisserai rien passer. Mais ça, c'est sûr dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Parce qu'en fait, bah, vous défendez ce qui est juste. En fait, vous défendez les buts. Alors, comment...
Donc déjà, ça vous va bien.
Oui. Oui, ça me va très, très bien. Non. Mais en règle générale, lorsque vous jouez au foot, vous jouez aussi selon... Le poste, c'est selon votre personnalité. C'est très intéressant. Alors, comment je deviens défenseur? En fait, il faut savoir que lorsque vous êtes enfant, vous rêvez de marquer des buts. Tous les enfants veulent marquer des buts. Donc, lorsque vous avez la capacité de jouer devant, ben vous jouez devant. Mais en grandissant, il y a une sélection. C'est-à-dire, tout le monde veut jouer devant. Donc, ceux qui vont rester au poste offensif, ce sont les plus techniques, ceux qui sont en capacité d'improvisation, qui sont en capacité de créer des choses. Il faut croire que je n'avais pas ces qualités, même si j'ai des doutes quand même. Non, j'ai pas.
Aimé Jacquet, qui vous a sélectionné hein, pour l'équipe de France de 98, Aimé Jacquet a dit de vous que vous n'aviez pas l'égoïsme de l'attaquant, mais plutôt le souci d'aider, le souci de protéger et la solidarité du défenseur.
Mais c'est pour cela que je dis qu'on joue avec sa personnalité. Mais disons que je n'avais pas les qualités requises pour jouer attaquant. Vraiment, le poste d'attaquant est beaucoup plus difficile que le poste de défenseur à très très haut niveau. Mais vraiment, j'aurais voulu être attaquant, marquer des buts, mais... Ça a été très difficile d'ailleurs d'accepter le fait de devenir défenseur pour dire la vérité parce que quand je suis rentré au centre de formation de Monaco,
j'étais à 17 ans.
À 17 ans, oui, j'étais milieu offensif. Et donc je me suis blessé d'ailleurs au genou et le chirurgien qui m'a opéré m'avait dit que je n'allais plus jamais jouer au foot parce que j'avais une malformation au niveau de la rotule. Et donc là aussi, déjà, j'avais un caractère. Je me souviens, à l'hôpital, je me suis dit, mais attends, mais c'est qui, lui, en fait? C'est pas lui qui va décider si je vais jouer au foot ou pas. Pourquoi il me dit ça? Et donc j'ai eu de la chance qu'il s'est trompé. Voilà. Et donc, je me souviens, l'entraîneur me dit...
Arsène Wenger? Ouais.
Non, c'était au centre de formation, avec Monsieur Tournier. Et il me dit, tiens... Faudrait que tu joues un... Ah non, mais vous avez raison, c'est vrai.
C'est Arsène Wenger?
C'est Arsène Wenger, la première fois qui m'a fait jouer, je crois, défenseur. D'ailleurs, je n'avais pas compris. Parce qu'à l'époque, on me disait que j'étais technique, quand j'étais à Fontainebleau. Et là, tout d'un coup, on me dit défenseur. Je me suis dit, bah, quand même. Et pourquoi d'ailleurs? Parfois, vous savez, c'est des choses toutes simples. Je jouais au foot à l'époque, avant d'aller à Monaco, j'ai joué en cadets nationaux à Melun. Et en cadets nationaux à Melun, on m'appelait Tutu. C'est mon petit nom, Tutu.
Avant, il y avait Lico, maintenant,
oui,
c'est Tutu.
Ça, c'est pour ma maman. Ne le dites à personne. Donc, Tutu. Mais chez les seniors, il y avait un garçon qui était défenseur central et on l'appelait Tutu au pied carré. Ça veut dire Tutu les pieds carrés, ça veut dire Tutu, en fait, techniquement, t'es nul. Et donc, on m'appelait Tutu, mais moi, je jouais au milieu de terrain, j'étais assez bon. Et donc, j'arrive à Monaco. Et donc, lorsqu'on me met défenseur, me revient le Tutu au pied carré qui joue derrière. Et là, je ne voulais pas. Mais j'ai bien fait parce que j'ai appris à aimer ce poste, mais vraiment. Et ça collait totalement avec ma personnalité, voilà, totalement.
Défenseur central.
Central, oui.
Ça a du sens aussi, central. D'autant que quand vous avez été sélectionné par Aimé Jacquet, vous avez joué comme arrière droit et pas comme arrière central.
Exactement. Et donc, effectivement, j'ai fait pas mal de matchs en équipe de France arrière droit, même si j'aimais pas ce poste. Mais c'est là aussi que j'ai gagné la Coupe du Monde, en étant arrière droit. Donc, c'est-à-dire, j'aime pas ce poste-là, mais en fait, il faut raisonner en tant qu'équipe et d'équilibre d'équipe. Et si pour l'équipe, je dois jouer arrière-droit, eh ben je joue arrière-droit et point barre.
Alors, c'est à ce poste d'arrière-droit que vous avez gagné la Coupe du Monde, avez-vous dit, Lilian Thuram. C'est aussi à ce poste-là que vous avez marqué des buts. Et pas n'importe lesquels, parce qu'il faut évidemment revenir sur 1998. Et 1998 a commencé, on va dire ça comme ça, par le match de demi-finale contre la Croatie.
Comment ça, la 98 a commencé par la demi-finale?
Pour nous, spectateurs, non, elle a commencé
non,
là.
Non, mais ça, je ne peux pas vous laisser dire ça.
Parce que c'est une rencontre capitale.
Oui, mais avant aussi.
Bien sûr, bien sûr. Mais on ne va pas refaire tous les matchs.
Non.
Donc, j'aimerais vous emmener sur ces deux buts qui ont été extrêmement important, puisque c'est grâce à ces deux buts que vous avez marqués que la France a été qualifiée pour la finale, finale historique. Et on se souvient d'une image qui est sans doute celle qui restera, peut-être même qui vous dépassera, Lilian Thuram. Vous marquant les deux buts, et vous, enfin un but d'abord, puis un deuxième, et vous agenouillé sur la pelouse avec un doigt, comme si vous étiez sidéré, un doigt sur votre bouche, sur votre menton, les yeux un peu dans le vague, en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Comme si vous étiez interdit, comme si vous n'en reveniez pas de ce que vous venez de faire.
Mais c'était le cas. Je pense que ce qui a touché les spectateurs et les téléspectateurs, c'est qu'en fait, ils ont compris que même moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. D'ailleurs, personne n'a rien compris. D'ailleurs, on a bien rigolé après le match où les joueurs ils me disaient « mais t'es sérieux ?» Et je dis « ben, comment ça s'est ?» Je dis « ben, j'en sais rien. » Mais c'est vrai parce que effectivement, lorsque vous prenez ma carrière, vous avez vu, en équipe de France, j'ai joué quand même pas mal de matchs. J'ai marqué que 2 buts. Et donc, oui, c'était juste incroyable. C'était un cadeau du ciel. Voilà. D'ailleurs, ma mère, sur le 2e but, elle s'est évanouie parce qu'elle, elle aussi, elle s'est dit non, mais non, c'est pas possible. C'est pas mon fils, c'est pas vrai. Non, c'est ouais, c'est un cadeau.
On a beaucoup dit que vous aviez marqué le premier but pour vous rattraper d'une erreur qui a permis à la Croatie de marquer le premier but après. Enfin bon.
Écoutez, ça, c'est les mauvaises
langues. C'est de l'histoire, ça ?
Non, c'est les mauvaises langues. Non. Non. Effectivement, sur le premier but, je suis le dernier défenseur. Donc, je suis celui qui couvre. Vous comprenez, là, ou à ce moment-là ? D'accord, bon. Et donc je couvre le joueur croate et il marque. Donc effectivement, normalement, j'aurais dû monter pour que lui soit hors jeu. Voilà. Donc c'est de ma responsabilité.
Donc vous marquez un but pour vous rattraper ?
Ah, pas du tout. Ah non, c'est pas pour me rattraper. C'est parce que il faut absolument gagner. Vous savez, lorsque vous jouez, et ça c'est très important de dire ça aux enfants très tôt, les meilleurs joueurs du monde, ce sont les joueurs qui se trompent le moins. Donc, en fait, l'erreur fait partie du jeu. Et lorsque vous êtes à ce niveau-là, il faut l'accepter. Je sais que on a du mal parfois à accepter les erreurs, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la vie. Et donc, moi, je me suis juste dit, en fait, cette finale ne va pas nous échapper. Parce que moi, depuis enfant, je rêve de gagner la Coupe du Monde. Et pour gagner la Coupe du Monde, ben, il faut gagner contre la Croatie. Et c'est surtout qu'à la mi-temps du match, il y a Mario Stanić qui jouait avec moi à Parme. Je ne sais pas pourquoi, il s'est rapproché de moi et il m'a dit « le match, c'est pour nous ». Et donc, quand il y a eu le 1-0, en fait, la voix de Mario Stanić m'est revenue et je m'entends dire « ah non, le match, c'est pas pour toi, c'est pour nous ». Et donc, en fait, c'est pour cela qu'il faut jamais dire des choses qui peuvent piquer l'adversaire parce que ça touche l'orgueil, ça rend plus fort. Et effectivement, j'ai été poussé par quelque chose pour essayé de marquer ce but et j'ai eu de la chance.
Une phrase que vous disait beaucoup votre mère, je crois, Lilian Thuram, que vous vous êtes rappelé également là, c'est « Tiens bon, ne te laisse pas aller ». C'est quand tu te laisses aller que ça devient compliqué.
Oui, effectivement, c'est la devise de la famille, mais je pense que c'est de la devise des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes. C'est « Tiens béret, pas molli, c'est molli à qui red ». Tiens bon, ne te laisse pas aller. C'est quand tu te laisses aller que ça devient compliqué. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi avec ça. Et j'ai inculqué aussi cette pensée à mes enfants.
Et c'est aussi ce qui donne la force de marquer un but du pied gauche, alors qu'on n'est pas spécialement gaucher.
Mais écoutez,
parce que le deuxième but, vous l'avez marqué du pied gauche.
Je suis droitier. sachez que j'ai, même du droit, je ne marque pas beaucoup de buts. Voilà, c'est...
Bon, après le 8 juillet 1998, il y a évidemment eu le 12 juillet 1998 et la victoire de l'équipe de France. Espoir et élan formidable de cette victoire. La force du mental, disait Aimé Jacquet dans un documentaire « Les yeux dans les bleus » qui a été fait à cette occasion. Vous diriez ça, la force du mental? Vous avez eu tous ensemble la force du mental? Pas seulement, hein, évidemment. Mais...
Bah effectivement, le mental, c'est essentiel. Encore une fois, c'est se projeter dans la victoire et faire ce qu'on doit faire. Sachant que, bien évidemment, ça va être compliqué parce qu'en face, il y a des adversaires aussi. Mais ce n'est pas que le mental. Vous savez, lorsque vous êtes joueur de foot, vous êtes aussi porté par les émotions. Lorsque vous êtes porté par des émotions qui vous emmènent à vous transcender, à aller chercher des choses que vous n'avez même pas conscience. En fait, lorsque vous jouez au foot, c'est un échange aussi avec les spectateurs, avec l'environnement. Et c'est pour cela que très souvent, les équipes qui jouent dans leur stade, souvent gagnent. Parce qu'en fait, il y a tout ça. Mais là, c'est la Coupe du Monde. Moi, sincèrement, lorsque nous avons pris le bus, nous sommes partis de Clairefontaine le jour de la finale, et j'ai vu le nombre de personnes qui avaient le long des chemins, le long de l'autoroute, les motards qui nous suivaient. Nous sommes arrivés au stade, mais là, j'avais l'impression qu'il y avait des millions de personnes en fait, qui nous soutenaient. Donc pour moi, c'était impossible que nous perdions. Impossible. Parce que je me disais, en fait, les Brésiliens, ils sont 11. Nous, nous sommes des millions. Et donc, ça vous rend beaucoup plus fort. Et donc, c'est vraiment notre victoire. La victoire de la France. Parce que les personnes qui ne connaissent pas vraiment le foot ne comprennent pas à quel point, effectivement, l'énergie dégagée des tribunes vous transcende, en fait. Et ça, ce jour-là, c'était... C'était juste incroyable.
Vous avez été porté.
Apporté, totalement. Totalement.
Est-ce que ça a été trop après? Tout ce qu'on en a fait. Le black blanc beurre. Tous ces bébés qui s'appellent Lilian après la Coupe du Monde de 1998. Est-ce qu'après, ça ne peut pas être que moins bien?
Alors, tout d'abord, moi, je dis très souvent à mes enfants, à la fin, il reste quoi? Des souvenirs. Des bons ou des mauvais souvenirs. À la fin, c'est ce qui reste. Et moi, je pense que 98, ce sont des bons souvenirs. Après, lorsque... Je comprends ce que vous dites sur le black blanc beurre, mais là aussi, c'est quelque chose de très positif. On pourrait croire que c'est négatif, non. C'est-à-dire qu'il y a eu des questionnements qui n'existaient pas avant. Il y a eu le fait de légitimer qu'on pouvait être français, française, de couleurs différentes, de religions différentes, d'origines différentes. Et je pense que c'est un moment très important. Voilà, c'est un moment très important. Après, la Coupe du Monde ne peut pas régler tous les problèmes. Le foot ne peut pas régler tous les problèmes. Donc,
on demande trop au foot à refléter la société. C'est aussi ce qui explique parfois qu'il y ait une énergie positive et puis parfois une énergie négative, Lilian Thuram.
Mais en fait, je ne suis pas sûr qu'on demande trop au foot. Le foot, c'est avant tout des émotions. Et donc, parfois, il faut juste comprendre ses émotions, les analyser, pouvoir les gérer, et essayer de prendre les bons côtés. Et après, très souvent, ce qui ne va pas avec le foot, c'est ce que font les politiques du foot. Ça, c'est autre chose. Vous savez, le foot n'est qu'à l'image de la société, tout simplement. Nous vivons dans un monde où l'appât du gain est peut-être la chose malheureusement la plus importante. Comment faire plus d'argent ? Et donc, le football représente cette idéologie capitaliste qui n'a pas de, comment je pourrais dire, qui n'a pas de limite. Voilà, mais c'est pas le foot le problème. C'est en fait le système économique dans lequel nous nous trouvons. Et les personnes les plus passionnées, ce sont les joueurs et les spectateurs. Mais après, il y a des affairistes qui font du business avec le foot. Mais c'est à l'image de ce qui se passe dans d'autres domaines.
Vous avez mis fin à votre carrière, très belle carrière, hein, parce qu'il y a eu Parme, ensuite la Juventus de Turin, le FC Barcelone. Bon. Vous avez mis fin à cette carrière en 2008, Lilian Thuram, à l'âge de 36 ans. Moment assez difficile, moment assez douloureux. 36 ans, c'est tôt pour arrêter sa carrière professionnelle de footballeur.
Mais moi, je pense que la fin, c'est toujours compliqué. La fin, c'est toujours compliqué. Et surtout lorsque, je vous ai dit, le foot, c'est le bonheur. C'est ce que vous avez fait pendant beaucoup, beaucoup d'années, une grande partie de votre vie. Donc, quand ça doit s'arrêter, bah, c'est difficile. Mais je dois avouer que quand même, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai été obligé d'arrêter. Parce qu'en fait, on m'a découvert un problème au cœur et donc, j'avais pas d'autre choix. Et d'ailleurs, pour prendre la décision d'arrêter, j'ai été en Hans-Bertrand. Parce que je vous ai dit, Hans-Bertrand, c'est un lieu...
C'est le centre du monde.
Voilà. De l'univers, le centre de l'univers. Et donc, j'ai été là, et puis j'ai pris la décision de m'arrêter. Ma maman était... je lui ai posé la question, d'ailleurs. Et elle m'a dit, ouais, je crois que tu devrais t'arrêter. Et je lui ai dit, t'as peut-être raison, c'est vrai. Et je me suis arrêté. Et donc... Je pense que ça aurait été encore plus difficile si j'aurais dû faire le choix vraiment de m'arrêter. Parce que j'aime vraiment jouer au foot. Être sur le terrain, enfin j'aimais, là je joue plus au foot. Être sur le terrain, être dans les vestiaires, être dans le dépassement de soi, faire ensemble. Parce que c'est juste incroyable quand vous êtes dans une équipe. Les équipes qui performent, en règle générale, c'est parce qu'ils ont des joueurs qui sont en capacité de se mettre à disposition du collectif. Dans les très très grandes équipes, ça se passe comme ça et c'est pour ça qu'ils gagnent. Et dans les équipes un peu plus médiocres, en fait, il y en a qui veulent que les autres soient à disposition. C'est-à-dire qu'eux, ils sont un peu les stars et les autres sont à disposition. Alors que dans des grandes équipes avec des très grands joueurs, vous êtes à disposition du collectif et ça donne quelque chose d'incroyable. C'est inimaginable.
C'est des énergies et c'est aussi des émotions puisqu'on se souvient aussi de vos larmes en 2006 quand vous avez perdu la finale de la Coupe du Monde contre l'Italie, Lilian Thuram.
Ah bon, je me rappelle pas de ça. Non, mais écoutez, moi j'ai toujours, mais vraiment j'ai gardé ça. Chaque fois que je rentrais en équipe de France, j'étais dans les vestiaires et on allait jouer. Et donc, on voit son maillot marqué Thuram. Donc jusqu'à là, je me dis, c'est vraiment moi ça. C'est pas possible. C'est incroyable. Et je me disais, mais comment se fait-il que le gosse d'Hans-Bertrand se retrouve là? Et en fait, moi, j'ai toujours gardé ça, ce plaisir-là. Et donc, quand vous avez ce plaisir et vous commencez la Coupe du Monde et vous dites, alors là, deuxième étoile. Alors, c'est ça. Là, ça, c'est... On se prépare psychologiquement. Parce que je tiens à le dire, 100% des gens qui réussissent, c'est parce qu'ils se préparent la réussite. Donc, il faut se préparer. Donc, on se motive, on fait des efforts, on se donne à fond. Et après, quand c'est fini, c'est fini. Et donc... Vous êtes confronté à dure réalité et donc ça crée beaucoup de tristesse.
Si je vous demande votre plus grand exploit, vous me répondez les deux buts de la Croatie?
Là, comme ça, je ne vous dirai pas ça. Je pense que le plus grand... Qu'est-ce que j'ai fait comme exploit ? Je pense que c'est peut-être lorsque le chirurgien me dit que je ne pourrai plus jamais jouer au foot.
Celui qui vous a opéré du
voilà,
genou.
Voilà. Et qu'il fallait opérer le deuxième genou. Je pense que j'étais jeune, d'accord ? Et je me demande pourquoi, en fait, je me suis dit ça. Je me suis dit, t'es qui, en fait, pour me dire que je ne vais pas devenir joueur de foot ? Mais en fait, c'est pas toi qui vas décider à savoir qu'est-ce que je vais devenir. Ah, non, c'est pas toi, en fait. Et moi, je vais devenir joueur de foot.
Est-ce que Lilian Thuram, l'une des plus grandes joies, voire des plus grandes fiertés aujourd'hui, c'est de voir que vos deux fils, Marcus et Kefren, jouent tous les deux au football, mais pas seulement comme un hobby, hein, ils jouent professionnellement. Est-ce que ça vous fait plaisir, cette transmission?
Ah, ça, c'est autre chose.
Si tant est que ce soit une transmission.
Alors, le mot plaisir, moi, je suis heureux pour mes enfants parce qu'ils sont heureux. Mais je ne suis pas fier qu'ils soient devenus joueurs de foot professionnels. Ouais, parce que s'ils n'avaient pas été joueurs professionnels, j'aurais été fier de mes enfants. Donc, c'est pas ce qu'ils font, en fait. C'est surtout, je suis impressionné par eux, vraiment. Parce que je trouve qu'ils sont très courageux. Ils sont, ouais, assez lucides. Et ils vivent ça très, très bien. D'ailleurs, dernièrement, j'ai été voir l'Inter de Milan contre la Juventus de Turin. Et mon fils, mon grand-fils, Marcus, joue à l'Inter de Milan. Et j'étais dans le stade, et là, je n'y croyais pas. Vous voyez, je me disais, mais attends, mais c'est une blague ou quoi ? J'ai mon fils qui joue là, et là, c'était, voilà, c'était très déstabilisant. Mais je suis très heureux qu'ils puissent faire du foot, parce que lorsqu'ils étaient enfants, ils rêvaient de ça. Et ils me disaient, mais papa, nous, on ne peut pas devenir professionnel. Je dis, mais pourquoi ? Mais en fait, tu vois, quand même, on est dans une famille riche, mais les enfants riches, ils ne deviennent pas joueurs de foot. J'ai dit, mais qui t'a dit ça ? Ça n'a aucun sens. Ah, toi, tu crois que pour devenir professionnel, il faut être dans une famille pauvre ? Ça n'a aucun sens aussi. C'est pas comme ça, la vie. En fait, si toi, tu veux devenir joueur de foot, ben écoute, déjà, il faut que tu penses que c'est possible. Parce que si tu penses que c'est pas possible, ce ne sera jamais possible. Jamais. Et après, petit à petit, tu vas travailler, tu vas te remettre en question, et peut-être qu'un jour, tu finiras professionnel. Mais ça n'a rien à voir avec l'origine des parents ou la situation financière des parents.
Merci, Lilian Thuram.
Ah ben écoutez, avec grand plaisir.
On se retrouve pour l'épisode 3, alors.
Avec grand plaisir.
On parlera du racisme demain. On ne naît pas raciste, on le devient. C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Nicolas Mathias, réalisation Somanina, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.
Ah, c'est marrant quand même.
Qu'est-ce qui est marrant ?
Parce que j'ai parlé de mon fils, du match. J'ai pas pensé au fait qu'ils jouent en équipe de France tous les deux.
Ah oui, c'est vrai.
C'est très bizarre.